Déclaration d'Aigoual. La forêt du massif de l'Aigoual est une forêt dans les nuages, qui par beau temps regarde la mer ou l'océan, et par temps brumeux, ceux qui s'y aventurent. Comme les feux d'artifice du 14 juillet, que l'on voit par dizaines depuis là-haut, les déclarations que vous allez entendre témoignent, comme une fête, des liens différents et pétillants que des hommes, des femmes et des enfants nourrissent pour cette forêt. Aventurons-nous à déclarer la forêt d'Aigoual comme on pourrait le faire d'un nouveau-né, puisqu'elle est très jeune, autour de 120 ans, et qu'elle a été baptisée forêt d'exception il y a peu. Au cœur du parc national des Cévennes qui veille sur elle, nous allons partager avec vous son histoire exemplaire et un état de ses lieux sylvestres. Nous verrons la façon dont elle est appréciée du public, étudiée aussi, notamment par l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, et enfin entretenue. C'est l'Office national des forêts qui s'en charge en grande partie. Nous allons entendre des paroles de contemplation vibrantes, s'incarnant parfois en actes artistiques, comme pour les balcons de l'Aigoual, ce parcours d'art dans le paysage. Seront évoquées aussi des visions d'avenir face aux défis climatiques. Je suis Clémentine Magiera et je vis en lisière admirative de cette forêt. J'ai recueilli à votre intention pour la filature du Mazel, tiers-lieu culturel en vallée de Valerogue, commanditaire de ce projet, les témoignages dont vous allez écouter des extraits. Ces déclarations d'Aigoual se ramifient en plusieurs branches. Déclaration de naissance et d'alliance, déclaration de panacée publique, déclaration au martelloscope, déclaration de revenus des revenants, déclaration de changement de domicile vivant. Et enfin, déclaration d'art et d'amour. Déclarons ensemble la forêt ouverte, ouverte aux expériences, aux connaissances et aux rêveries. Branche 2. Déclaration de panacée publique.
En fait, les arbres poussent sur la montagne. Du coup, la montagne elle ressemble à Tahiti. Et en fait, c'est une géante dame qui a plein d'arbres sur elle.
S'il n'y avait pas d'arbres, on ne pourrait pas respirer. C'est plus frais l'air. Je ne sais pas comment expliquer. Il n'est pas parfumé, non. C'est plutôt de l'air pur, quoi. C'est pas, il n'y a pas autre chose qui se mélange avec. J'aime bien avoir des surprises. C'est joli la forêt aussi, avec tous les arbres. Tomber sur des champignons plus gros que d'autres, ou tomber sur plusieurs choses, quoi. Un animal, ou un arbre bizarre, hein. Voilà, tout ce type de surprise. Un arbre qui peut aller dans tous les sens, par exemple, penché, ça me plaît. Et il y a souvent beaucoup de feuilles par terre, ça fait comme un oreiller.
Moi, un jour, je fais une sieste, tu t'allonges dans les feuilles, tu te fabriques un coin de feuilles, et en fait, après, tu mets ta capuche et tu t'essayes de dormir. Tu t'endors sous les bruits le chant des oiseaux, oui.
On va se promener dans la forêt. Même parfois, un jour, je suis allée avec le ski club faire du vélo là-bas, dans la forêt de l'Aigoual. J'ai bien aimé. Je trouve que c'était bien dans la forêt. Je me sens libre un peu. Parfois, dans une classe ou dans la maison, t'as de l'air, oui, mais il y a un peu plus de bruit. Dedans, c'est pas la nature. La nature, c'est mieux que dedans. Et du coup, ben là, tu peux faire tout ce que tu veux.
Pour moi, le ressenti le plus important, ce que ça nous amène, la vibration, enfin, l'énergie. Moi, la forêt, même violente, même secouée, elle m'apaise, elle m'amène une respiration. Le fait de marcher dans cette forêt, de contempler, d'être tout le temps en éveil, mais en état second en même temps aussi, pas que l'affût de tout, juste dans le ressenti, ça m'amène une plénitude, un calme, une sérénité, sans me prendre la tête psychologiquement, ça me libère de mes angoisses, de mes énergies négatives, de mes conflits. Voilà, je dis toujours, fâchez-vous avec quelqu'un, arrêtez votre colère et allez vous balader en forêt. Vous allez revenir, ça ne sera pas la même chose, vous serez... Vous communiquerez plus sereinement et peut-être, si tout le monde faisait ça, ça devrait être obligatoire en fait. On devrait faire une prescription en cas de colère exagérée, balade en forêt de l'Aigoual obligatoire.
Qu'est-ce que tu ressens quand tu te promènes en forêt?
Je me sens observée.
Par qui?
Je sais pas. Très effrayant. Quand la dernière fois que je suis allée en forêt, il y avait pas d'animaux, il y avait personne.
On se rend compte que la forêt, elle est souvent et parfois vue comme une menace aussi, menace parce que le risque d'incendie, parce que témoin de la fermeture des milieux, alors qu'on est il y a une culture encore de milieux ouverts, de milieux agricoles et pastorales, et donc c'est important aussi. Voilà, c'est un levier d'action important de parler de la forêt, en fait, tout simplement, et en listant tout ce qu'elle apporte, toutes ses fonctions, ce qu'on appelle de façon un peu barbare les services écosystémiques, mais voilà, la séquestration de carbone, et donc l'importance dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, protection de l'eau, protection des sols, accueil de la biodiversité, donc tout ça, c'est important d'en parler aussi. Alors, on a un dispositif en forêt qui s'appelle la Placette René Cofort. En fait, c'est un suivi qui est réalisé à l'échelle nationale et puis même européenne. Il y a tout un tas de placettes qui sont implantées en forêt et dans lesquelles, on a un certain nombre d'instruments qui permettent notamment de recueillir les eaux de pluie qui filtrent à travers le feuillage, qui ruissellent le long des troncs et puis qui ruissellent dans le sol. Et ensuite d'analyser en fait le contenu de ces pluies et de voir les éléments minéraux notamment qu'elles contiennent. Alors ça, c'est des choses qui avaient été pensées au départ par rapport à la problématique des pluies acides, et puis c'est une problématique qui a un peu diminué, on va dire. L'attention là-dessus a diminué, et par contre il y a d'autres problématiques qui sont arrivées, notamment le changement climatique, etc. Et en fait, ces placettes, elles sont implantées depuis plus de 30 ans maintenant, et donc ça permet d'avoir des suivis à long terme, à la fois du climat, à la fois du contenu de ces eaux de pluie, et puis d'essayer de comprendre mieux le fonctionnement des écosystèmes. Donc en fait, on s'intéresse aux arbres, on s'intéresse au sol, on s'intéresse à la litière, donc aux feuilles et aux branches mortes qui tombent des arbres, pour voir un petit peu comment tout le système forestier fonctionne. Et comment, du coup, il peut être en mesure de résister, finalement, aux modifications du climat, par exemple. Donc c'est une placette qui est clôturée, pour qu'il n'y ait pas tout le monde qui puisse aller au milieu des instruments, etc. Les arbres sont numérotés à l'intérieur, les dispositifs sont implantés, et en fait, il y a un relevé des différents instruments, donc à la fois avec des mesures et des prélèvements qui sont faits chaque semaine par un technicien forestier de l'équipe de l'Aigoual. Et avec une placette qui est implantée en forêt, sous le couvert forestier, et pour comparaison, il y a une autre placette qui est implantée dans la prairie juste au-dessus du col de la Serrérède, là, hors couvert forestier, et donc ce qui permet d'avoir aussi des comparaisons entre ce qui se passe sous couvert forestier et en dehors du couvert forestier, notamment pour le microclimat. La forêt a un effet tampon très très fort en fait sur le microclimat, quoi. À la fois quand il fait très chaud dehors et très froid dehors, il fait même plus doux à l'intérieur de la forêt, quoi. Ça, c'est très net, quoi. C'est plusieurs degrés d'écart, quoi. La première conclusion, c'était de voir qu'en fait, ce qui posait le plus question au début des années 80-90 sur l'acidification des pluies, et donc qui se retrouvaient ensuite en forêt, c'est une problématique qui a diminué parce qu'il y a un certain nombre de réglementations en fait, qui ont été prises pour diminuer les émissions de dioxyde de soufre, par exemple. Ça, c'est des choses qui ont diminué, mais après, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de situations forestières dans lesquelles il y a toujours cette acidification des sols qui continuent dans certains types de peuplement. Et puis, globalement, ce qu'on voit, c'est notamment les effets des... Enfin, ça permet de documenter, en tout cas, les effets des sécheresses, des étés secs. On se rend compte que quand il y a des gros coups de sécheresse, il y a un effet sur les arbres qui perdent un certain nombre de feuilles, qui sont stressées l'année même de la sécheresse. Et en fait, on se rend compte, en suivant l'état sanitaire des arbres, en fait, qu'on observe tous les ans, qu'après ce stress, en fait, ils récupèrent pas. Donc c'est-à-dire qu'ils continuent à être stressés les années d'après, même si c'est des années qui sont plus pluvieuses, quoi. Donc ça permet de comprendre un petit peu, ça permet de comprendre un petit peu ces choses-là, quoi. Et en fait, c'est ensuite un réseau, donc il y a 100 placettes au niveau français, dont 14 qui sont avec tous les instruments comme il y a ici sur les Gouales. Et en fait, c'est ce suivi qui a plus de 30 ans intéresse beaucoup différentes équipes de recherche, en fait, des chercheurs, des universitaires qui s'appuient sur ces données pour interroger leurs questions de recherche à eux, quoi. C'est une base de données en fait qui est très riche pour la recherche, pour les recherches en fait en cours sur le microclimat, sur les changements par rapport à la biodiversité, sur les changements par rapport sur les stress par rapport au climat, etc., quoi. Et puis il y a des éléments mais qui sont quand même très techniques sur la nutrition des arbres, en fait. Donc ça, sur tous ces prélèvements qui sont faits dans les eaux de pluie, c'est traité après par des laboratoires de chimie, en fait. Ça permet de comprendre mieux l'alimentation minérale, les carences, etc. Mais là, on rentre dans des choses qui sont extrêmement techniques, quoi.
Si une forêt va bien ou une forêt va pas bien, alors n'importe quel scientifique un peu averti pourra le savoir, je pense, parce qu'il y a des codes. Mais en même temps, il y a un ressenti. Il y a un ressenti de l'histoire de cette forêt. En prenant le temps de regarder, on arrive à voir si effectivement il y a des traces de la présence de l'homme, s'il y a des animaux, s'ils sont pas là, d'être à l'écoute de ce qu'on voit. Et c'est difficile des fois de déconnecter cette sensation, en fait, qui est naturelle, enfin, qui est innée, avec le cérébral du scientifique qui essaye de comprendre les choses. Et souvent, même tout le temps, les projets scientifiques démarrent de la forêt. On est en forêt, on voit des choses et on se dit « Ah, mais là, ça se teste, il y a quelque chose, j'observe quelque chose. Est-ce que c'est lié au hasard? Est-ce que c'est pas lié au hasard ?» Et là, il y a le projet de scientifique qui se met en place, le cérébral qui commence à travailler et on va poser des hypothèses et on va faire en sorte qu'il y ait un protocole expérimental qui permette de tester nos hypothèses. Mais au départ, c'est vraiment une observation, quoi, qui va être le déclic, pour moi, quoi. Je suis Caroline Scotti-Saint-Agne et je suis ingénieure de recherche dans l'unité de recherche écologie des forêts méditerranéennes à Avignon. Et je suis généticienne des populations. J'étudie l'évolution des forêts et en particulier l'évolution des forêts méditerranéennes, ou en tout cas dans le sud de la France. J'étudie en particulier l'adaptation du sapin pectiné. Donc le sapin pectiné, c'est l'espèce de sapin qu'on trouve en France métropolitaine, qui est répandu dans toute l'Europe. Et on voit qu'il y a des dépérissements ces derniers temps à cause des sécheresses, à cause du réchauffement climatique. Une des stratégies pour essayer d'adapter le sapin pectiné au changement climatique, c'est de le planter en mélange avec des espèces méditerranéennes, donc des sapins méditerranéens. Quand je suis arrivée sur Avignon, une des premières choses que j'ai faites, c'est d'essayer de rechercher des endroits où il y avait ce fameux sapin pectiné, qui est d'origine européenne et qui pousse naturellement en France, et où il y avait aussi à côté des plantations de sapins méditerranéens. Et donc j'ai cherché un peu partout, je ne trouvais pas, parce qu'en fait ils ne poussent pas dans les mêmes localités. Le sapin pectiné, il est plus en altitude que le sapin méditerranéen, donc je ne trouvais pas.
Et puis, au fil de discussions, de rencontres, j'ai identifié le site de l'Égoual, en fait. Et notamment l'arboretum de l'Horte de Dieu, où il y avait effectivement des plantations de sapins méditerranéens qui étaient anciennes, qui dataient. Par ailleurs, parce que l'objectif, c'était aussi de trouver des sapins qui étaient matures. Je ne voulais pas voir des jeunes arbres, je voulais voir des arbres qui pouvaient se reproduire. Et donc, bien évidemment, ça me paraissait intéressant, d'autant plus que je savais qu'il y avait ce sapin pectiné sur l'Égoual aussi. Donc, ça faisait un mélange qui pouvait bien répondre à mes questionnements scientifiques. Ces questionnements étant de regarder la régénération naturelle une fois que ces sapins pouvaient se reproduire et qu'ils étaient en mélange. Et donc, je suis allée à l'Horte de Dieu. Et l'Égoual, je l'ai découvert quand j'étais petite, comme beaucoup de gens, à travers des balades, et le lac des Pises, les 4000 marches, la station météo. Et donc j'ai redécouvert l'arboretum sous l'œil du scientifique. Et donc voilà, je me suis retrouvée là, et effectivement, c'est un super endroit, parce que à l'époque... Donc là, c'est le couple Charles Flao-Georges Fabre qui sont à l'initiative de ça, parce que Georges Fabre n'arrivait pas à planter sur ce versant de l'Égoual, parce que c'est le versant sud, et donc les espèces qu'il plantait, elles mouraient. Donc il a demandé de l'aide à Charles Flao pour qu'il l'aide à repenser la forêt qu'il pourrait y avoir sur ce versant sud. Et ils ont eu l'idée de mettre en place ces arboretums à différentes altitudes de l'Égoual. Il y a un arboretum juste au-dessus du Vigan, jusqu'en haut, et notamment celui d'en haut, donc l'arboretum de l'Horte de Dieu, où il y a toutes les espèces de sapins méditerranéens qui sont plantées dans différents placeaux. Il y en a plusieurs d'entre elles, et puis il y a ce fameux sapin pectiné qui m'intéresse, et voilà. Donc à partir de là, quand j'ai découvert le site et puis l'intérêt scientifique, j'ai recherché... il y a eu plusieurs choses. La démarche, elle a été un peu... j'ai un peu tiré des ficelles de partout. Bon, d'abord, chercher des sous, parce qu'il fallait un peu d'argent pour pouvoir aller là-bas et pouvoir mettre en place un suivi scientifique. Et puis aussi, je voulais comprendre l'histoire de cette plantation, de ces plantations, qu'est-ce qu'ils avaient mis, pourquoi. Et là, pour remonter le fil de l'histoire, j'ai pris des contacts avec les gens de là-bas, qui étaient en lien avec la forêt, plus ou moins en lien avec la forêt. Donc c'est là que j'ai rencontré, maintenant ils sont partis à la retraite, mais les anciens de l'ONF. Donc certains m'ont emmené dans leur voiture, et puis on a fait le tour des peuplements autour de l'Horte de Dieu pour essayer de voir ce qui avait été planté, ce qui était naturel. Parce que je cherche aussi s'il existe encore des sapins pectinés non plantés à l'Égoual. Je ne les ai pas trouvés. Donc voilà, c'est encore une quête que j'ai et que j'espère un jour trouver. Et puis l'autre chose, c'est le lien avec Marie-France Flao, qui, elle, avait tous les écrits de son arrière-grand-oncle, enfin en tout cas de Charles Flao. Et puis par lien, ceux aussi de Georges Fabre. Et donc grâce à elle, j'ai pu avoir accès à des archives et essayer de reconstruire l'histoire de cette forêt. Ça a été passionnant, des rencontres passionnantes avec Marie-France, et puis à la découverte de ces hommes qui ont travaillé avant moi, qui étaient des écologues scientifiques, parce que déjà à l'époque, ils testaient des espèces... qui pourraient être adaptées à l'Égoual alors qu'elles poussaient dans des conditions très méditerranéennes, notamment les sapins qui sont en Grèce, en Turquie, en Espagne, et qu'ils ont déplacé jusqu'à l'Égoual pour voir si elles étaient capables de pousser donc en 1890-1900 dans les conditions de l'Égoual et s'y adapter. Et donc à l'époque, eux, ce qu'ils voulaient voir, c'était si ces espèces plantées pouvaient résister. Et moi, je vois 50 ans après qu'effectivement, certaines sont mortes, d'autres sont là, et celles qui sont là ont pu se reproduire et ont généré plusieurs générations d'ailleurs, parce qu'en 60 ans, il y a eu deux générations de sapins que j'étudie aujourd'hui. Voilà. Donc, la rencontre avec Marie-France pour essayer de reconstruire l'histoire avec les collègues locaux. Les jeunes ne savent pas grand-chose parce que les écrits, beaucoup d'écrits ont disparu, notamment tous ceux qui sont autour de Georges Fabre. Tout ça a disparu avec lui. avec son histoire qui est triste, mais et qui est d'autant plus triste que tout a disparu, donc on n'arrive pas à, on a perdu toute cette information, et donc aujourd'hui il faut essayer de reconstruire cette histoire. Et alors j'ai la chance d'être généticienne, et avec la génétique on arrive à reconstruire l'histoire des populations à travers leurs gènes, et c'est ce que j'essaye de faire. Donc il y a des fois des choses, même la plupart des arbres, je n'ai pas forcément leur origine, mais grâce à la génétique, j'arrive à reconstruire d'où ils viennent. Alors, pas à qui ils ont acheté les graines, mais de quel pays proviennent ces arbres. Et parfois, il y a eu des erreurs, parfois, ce n'est pas les espèces qu'ils pensaient. Aujourd'hui, avec le recul, on voit qu'on peut faire une nouvelle carte des arbres de l'Horte de Dieu en corrigeant certains arbres qui sont mal identifiés à l'origine. Voilà, on a aussi donc, je coordonne un projet, j'ai réussi à avoir un financement, voilà, qui finance en partie l'étude de la régénération des sapins à l'Horte de Dieu. Et ce financement, c'est au travers d'un financement de la région Occitanie, et ce projet s'appelle Oxygène, pour Occitanie et génétique. Et on étudie dans ce projet les forêts anciennes, et une partie est d'étudier les forêts plantées, donc c'est la forêt de l'Aigoual que j'ai choisie pour étudier la régénération naturelle dans ces forêts. Et donc on a mis en place un suivi de tous les semis de l'Horte de Dieu. Donc si on va s'y promener, là aujourd'hui, on peut voir qu'il y a des petits sapins avec des étiquettes qui ont été mesurés, le diamètre est mesuré, la hauteur aussi, et la génétique nous permet de savoir de quelle espèce ils proviennent. Les analyses sont encore en cours, donc je ne sais pas si on pourra dire qui est papa et maman, parce qu'il y a beaucoup de papa et maman possibles, donc on a peut-être trop de choix et donc on n'arrivera pas à savoir, mais au moins identifier qui a contribué comme espèce à la régénération, et donc quelles espèces sont les mieux adaptées sur l'Aigoual et dans un contexte de climat qui est quand même modifié par rapport à celui qui était présent en 1900. Le but étant de montrer que le mélange d'espèces de sapins, dans ce cas-là, permet d'avoir une régénération qui est potentiellement adaptée au climat et plus résistante au sapin pectiné qui est dépérissant dans les endroits les plus au sud de la France parce qu'il n'est plus adapté au réchauffement climatique, aux nouvelles conditions climatiques. C'est une de mes casquettes, c'est-à-dire de regarder comment les mélanges peuvent être utilisés pour la forêt de demain. Mais en même temps, je travaille aussi beaucoup sur la conservation et la préservation des populations autochtones. Et donc, bien évidemment, mon travail, c'est aussi de faire la part des choses entre ce qu'on peut planter, ce qu'on plante et ce qui peut favoriser une adaptation, mais en faisant attention à sauvegarder le local, parce que quand on plante des choses qui peuvent se mélanger et s'hybrider, on modifie la diversité génétique locale. Donc vraiment, je travaille sur les deux facettes en me disant que de toute façon, compte tenu de ce qui va se passer dans le futur, il vaut mieux avoir plusieurs stratégies pour adapter la forêt parce qu'une seule ne sera pas suffisante. C'est-à-dire que les espèces déjà en place naturellement et qui sont ici depuis des milliers d'années, dans certains endroits, elles ne pourront peut-être pas s'adapter assez rapidement pour faire face au changement climatique et donc on fera appel à d'autres espèces. Donc l'Aigoual est une belle réussite de ça. Mais par contre, dans les endroits où il n'y a pas de dépérissement, eh bien, il faut les préserver et pas faire de plantation autour. Voilà. Et donc c'est l'autre aspect de ce projet Oxygène où on étudie, alors l'Occitanie, hein, donc on étudie 40 sites de vieilles forêts. Donc ce sont des forêts qui ont été très peu anthropisées, très peu gérées par l'homme. Et il y en a alors beaucoup dans les Pyrénées et sur l'Aigoual, il y en a une, c'est la forêt de Marquerès, qui est une forêt de hêtres, une vieille forêt de hêtres dans des éboulis, où là on va étudier la diversité génétique, on va essayer de voir si cette diversité génétique elle est propre à celle de l'Aigoual ou si elle ressemble à d'autres forêts de hêtres qui sont en Occitanie. Puis on participera à la protection de cette forêt et des forêts anciennes plus en général. On a établi un plan d'expérimentation, donc on cartographie déjà les arbres, donc avec le GPS. Aujourd'hui, on fait ça avec le GPS, donc ça nous permet de faire des cartes après sur l'ordinateur. Et puis on étiquette les arbres qui nous intéressent, on les mesure, donc la hauteur, le diamètre. Des fois la hauteur c'est compliqué quand ce sont des vieux arbres. Donc on a ce qu'on appelle un échenilloir, c'est donc une grande perche qui nous permet de faire des mesures, ou on a des appareils qui permettent aussi de se mettre en se mettant un petit peu loin avec la règle de Thalès et du triangle de Pythagore, voilà, d'arriver à voir la hauteur de l'arbre. Et puis sinon, on fait aussi des prélèvements, donc on grimpe dans les arbres, notamment à l'Aigoual, il y a des gens qui sont des grimpeurs, là dans notre unité, il y a des grimpeurs professionnels, et ils sont allés récolter des cônes pour ensuite avoir des graines, pour pouvoir les faire germer. Et puis pour la génétique, on prélève des aiguilles, et puis on revient au laboratoire, et là il y a toute une équipe qui travaille sur l'extraction d'ADN. Donc on broie l'aiguille, et puis on utilise tout un tas de produits qui permettent d'extraire l'ADN des cellules végétales. Et puis il y a des méthodes de biologie moléculaire qui font qu'on arrive à... Alors on n'observe pas au microscope, ce sont d'autres méthodes, mais on amplifie l'ADN et on le fait migrer dans un gel qui va nous révéler la composition de cet ADN. Voilà. Ou on le séquence directement. Maintenant, il y a des séquenceurs qui permettent d'avoir toute la molécule d'ADN. Et on compare ces molécules entre les différents individus. Et comme ils ont des histoires évolutives différentes, les séquences d'ADN sont différentes entre les individus et entre les espèces. Et ça nous permet de reconstituer la phylogénie des espèces et leur histoire. À l'époque, les scientifiques, alors ils voyageaient, les scientifiques et les écologues et forestiers, ils voyageaient pas mal. Charles Flow, c'était un botaniste, donc il avait un réseau scientifique énorme au niveau européen, et ils se connaissaient bien, et ils échangeaient des graines, et donc voilà, ils ont pu planter dans l'arboretum des arbres qui venaient d'un peu partout. Mais ce qu'ils savaient pas à l'époque, c'est que quand ils prenaient une graine sur un sapin d'Espagne, si à côté de ce sapin d'Espagne, il y avait dans un autre jardin un sapin de Turquie, les graines étaient potentiellement hybridées parce que ces deux espèces s'hybridaient. Donc, s'ils ont planté à l'Aigoual, dans l'arboretum, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est un arbre qui est 50% sapin d'Espagne et 50% sapin de Turquie. Mais ils ne pouvaient pas le savoir à l'époque que les espèces s'hybridaient. Mais on passe aussi par des observations... morphologique comme ont pu faire par le passé les botanistes. Et d'ailleurs, l'année dernière, quand j'y étais avec ma thésarde, là, avec Alice Copy, on est allé sur à l'Ordre de Dieu, on a dormi dans le chalet, c'était super, et on a utilisé les loupes binoculaires. Alors c'est pas celles de Charles Flau, ce sont celles de l'université de Montpellier, je pense, qui ont dû être laissées là par les professeurs de l'université de Montpellier. Et donc on a utilisé les loupes binoculaires pour essayer de regarder, de déterminer les espèces de sapins à l'aide de la loupe, parce que les aiguilles sont un petit peu différentes. Et donc avec les clés botaniques, avec les livres, on arrive à les différencier. Sauf que comme sur les Aigoual ils sont hybridés, c'est le gros bazar et on n'y arrive pas. Et donc il faut passer par l'ADN. Voilà, quand on y allait toutes les deux, là, on a dormi dans le chalet, il n'était pas encore tout à fait... là, maintenant, il a été restauré, mais là, ce n'était pas encore le cas. Donc, on a fait le feu, on a eu un orage, donc on était là toutes les deux dans le chalet, à attendre que l'orage passe. Et puis le matin, voilà, avec le chant des oiseaux, les animaux, on est allé... se brosser les dents à la source, comme pouvait le faire Charles Flau. Enfin, c'était super, quoi. On était dans les empreintes de nos ancêtres et de nos pères sur les Aigoual, quoi. C'est magnifique. Et alors, moi, je travaille à Avignon, dans le Vaucluse. Donc, on a un laboratoire qui est laboratoire naturel, qui est plutôt le Ventoux. Mais bon, en tant que Cévenole d'adoption... qui adore les Cévennes et en particulier les Aigoual. Je travaille sur une partie côté Alpes, et puis l'autre partie côté Cévennes et Occitanie, parce que cette forêt a une histoire qui est très intéressante aussi. Et puis d'un point de vue scientifique, il y a plein de choses intéressantes. Mais... Alors, je n'ai pas en tête la répartition des espèces. Il y a vraiment deux climats différents sur les deux versions des Goëls. Il y a certainement des zones où on peut trouver des espèces en commun parce que le climat va être un peu intermédiaire. Mais sinon, c'est très contrasté. C'est sûr que quand on monte par Valorogue, on n'a pas du tout les mêmes espèces que de l'autre côté atlantique. Ça veut dire qu'une même espèce, je pense par exemple au hêtre, aux hêtres qu'on va trouver entre Alzon et puis le haut de l'Aigoual, on aura certainement des adaptations différentes parce qu'un climat différent entre ces populations de hêtres. Les hêtres de l'Aigoual, ça fait partie des choses qu'on étudiera certainement, l'adaptation du hêtre sur l'Aigoual. On l'étudie sur le côté Ventoux, mais c'est vrai que ça pourrait être un futur programme de recherche d'étudier l'adaptation des différents hêtres de l'Aigoual, la partie plus méditerranéenne et la partie atlantique. Alors je dis le hêtre parce que sur l'Aigoual, c'est vraiment l'espèce qui est endémique et qui n'a pas été plantée. Ce serait difficile de le faire avec d'autres espèces parce qu'elles sont là que depuis 120 ans, donc l'adaptation, elle a pu se faire que sur une génération, alors que le hêtre, il y a eu beaucoup plus de générations qui ont permis des adaptations différentes sur les deux versants. Toutes les espèces s'adaptent. Là, le problème auquel on se confronte, c'est la vitesse à laquelle se fait le réchauffement climatique et donc la vitesse d'adaptation qui est longue, qui nécessite plusieurs générations. Et comme une génération d'arbres, c'est une cinquantaine d'années au minimum, voilà, on est tout de suite à 100 ans et dans 100 ans, on ne sait pas quel climat on aura. Et puis, il y aura toujours des endroits, enfin, dans ces montagnes, il y a toujours des endroits où il y a un microclimat qui fait qu'il y aura moins de dépérissement. Donc la forêt ne va pas disparaître. Par contre, elle va certainement être réduite en certains endroits, oui. Le bas de l'Aigoual vers son sud, ça sera certainement différent, oui. Les espèces vont monter, et on aura un paysage forestier différent de celui qu'on a connu autrefois et celui qu'on a aujourd'hui. Mais ça, c'est de tout temps, hein. C'est normal. Et c'est pour ça qu'il existe cette stratégie de planter des espèces déjà adaptées à côté des espèces qui n'arrivent pas à s'adapter. Donc ces espèces de sapins méditerranéens là, qui ont été plantées à l'Aigoual, aujourd'hui, on les utilise pour les planter dans différents peuplements de sapins pectinés pour essayer de favoriser l'hybridation, d'apporter des gènes de résistance. Ça fait partie des stratégies utilisées. Ah, j'ai tout le temps les yeux sur les arbres. Quand je conduis, je suis tout le temps les yeux sur les arbres. Il faut faire attention, d'ailleurs. Je suis là, je les reconnais à peu près tous. Et voilà, je me pose la question. Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce que ça régénère? Est-ce que ça régénère pas? Est-ce que cette forêt, elle a potentiellement un avenir ou pas? Alors, la forêt de l'Aigoual, j'ai pas... Globalement, quand je m'y promène, je trouve qu'elle va plutôt bien. Et l'Aigoual, alors je ne connais pas tout l'Aigoual, sur le versant sud, il doit y avoir du dépérissement et l'ONF pourrait mieux en parler que moi, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas autant de dépérissement que ce qu'on peut voir sur le Mont Ventoux. Et puis, effectivement, il y a des fortes sécheresses l'été, mais il y a quand même beaucoup d'eau, puisque l'Aigoual, c'est une partie côté méditerranéen et une autre côté atlantique, avec une diversité d'espèces qui est importante liée à cette diversité de climat. Et cette diversité d'espèces fait qu'il y a un écosystème diversifié, donc peut-être aussi plus résilient par sa diversité face à des événements de stress comme peut l'être le réchauffement climatique. Donc je serais plutôt optimiste pour cette forêt. Et aujourd'hui, bien qu'évidemment, du bois, on en a besoin pour la construction et voilà, pour l'utiliser. Mais on a aussi besoin d'une forêt, d'un écosystème forestier qui se maintienne. Et donc, une des priorités aujourd'hui, outre la production de bois, c'est vraiment le maintien de la forêt. Et donc, quelle que soit la forme de l'arbre, c'est qu'il survive aux contraintes environnementales. La forêt, ça sert à rien. C'est une forêt. Ça sert à quoi? Ça dépend. Moi, humaine, bien sûr, je vais trouver des utilités de la forêt, mais c'est pas comme ça qu'il faut la réfléchir. Et la forêt, elle est là, comme nous, on est là. C'est un écosystème qui a évolué depuis des millénaires, qui a changé de forme. plusieurs fois, qui était là, qui n'était pas là, qui est repassé par là, qui était tropicale et puis qui est devenue méditerranéenne. Et c'est un écosystème rempli de plein d'organismes différents qui vivent ensemble, dont nous. Depuis que l'homme est là, on la gère, on l'utilise, donc elle est bien utile, mais il faut aussi la voir comme un écosystème à part entière et qui doit faire sa vie sans l'homme, quoi.
Un arbre, si ça parlait, ça pourrait nous dire de grandes choses, oui. Parce qu'un arbre, ça vit très longtemps, donc ça voit plein de choses. Enfin, par exemple, il y a un sentier, quelqu'un se promène, il se perd, et l'arbre, il parle. Et quelques années plus tard, par exemple, le descendant de la personne qui s'était perdue, il cherche à la retrouver, à savoir qui c'est. L'arbre lui parle, lui dit « Oui, je la connais, un jour elle s'est perdue, elle m'a parlé, elle s'appelle comme ça ». Enfin, un arbre, si ça pouvait parler, ça pourrait raconter plein de choses.
Il y a une dimension aussi de puissance. La forêt, c'est un être vivant, fragile, dit, mais très fort en même temps, qui a beaucoup à nous apprendre, parce que politiquement, pour moi, ça a du sens. La forêt, c'est une forêt qui vit ensemble, qui est solidaire. Les mycéliums, les champignons, les arbres, tout ça vit en symbiose et ça leur donne une puissance, une capacité à exister qui est extraordinaire. En forêt, l'été, on commence à marcher dans les genêts, on crève de chaud et puis on arrive dans la forêt de hêtre et il fait extraordinairement frais. Il y a de l'humidité, il y a de la mousse partout, il y a une diversité de plantes, d'êtres vivants qui nous apprend à nous, humains, que peut-être la solidarité, le vivre ensemble, c'est ça le secret de la réussite et de la puissance. C'est pas écraser son voisin ou rejeter son voisin parce qu'il c'est pas parce que c'est un sapin et que nous on est un être ou je sais pas quoi. Non, la forêt elle fait pas ça du tout. Elle vit ensemble, il y a plein d'endroits où il y a des arbres extraordinaires, des géants, des tout petits. Et oui, ça aussi c'est la diversité et les êtres comme les êtres vivants, ils s'adaptent à leur terrain. Et voilà, encore une fois, la nature, il y a les murs, mais il y a aussi les fraises des bois, les myrtilles. Et par exemple, j'ai des amis aussi qui travaillent dans la phytothérapie. Et donc on a fait des balades ensemble et elles me disent bah, là les myrtilles quand les feuilles bourgeonnent au printemps, il faut manger les bourgeons des feuilles, c'est de la gémothérapie puissance 10 000 pour vos yeux, pour votre circulation sanguine, c'est un remède fabuleux. Et aussi un peu plus bas il y a les cades, les genévriers. Pareil, les petites feuilles, elles ne sont pas piquantes quand elles naissent, on peut en manger un peu. C'est le plus puissant détox possible. Donc voilà, à chaque rencontre, on découvre des choses autour du chemin. Voilà, là, c'était les châtaignes, avant c'était les champignons, les mûres, les arbouses. Là, sur les chemins caladés, sur les pierres, il y a les nombrils de Vénus qui commencent à grossir. On peut les manger en salade, c'est extraordinairement bon. Enfin voilà, la forêt est une corne d'abondance à laquelle on se nourrit spirituellement, physiquement.
C'est très beau. Il y a beaucoup de bruit d'oiseaux, d'animaux, de tout. Il y a beaucoup d'empreintes d'animaux. Les gens, il y a comme des touristes qui vont les voir. Il y a aussi des animaux qui brament, comme le cerf. Et aussi d'autres animaux qu'ils font des marques, qui marquent leur territoire. Et ça, on en trouve souvent quand on se promène dans la forêt. On voit l'arbre, les écorces de l'arbre qui se sont arrachées et on trouve des poils. Et après, on peut aussi voir des petits félins, comme des petits chats sauvages, qu'il y en a. Avant, je crois qu'il y avait des lynx. Enfin, ils sont partis. Et maintenant, Apparemment, ils voudraient lâcher des chamois. Donc, bientôt, on risque de voir des chamois. Ici, c'est inépuisable. Depuis que là, la forêt a été replantée, eh bien, maintenant, plus personne s'en lasse de la voir. Ben oui, c'est un trésor pour nous.
Vous venez d'écouter les deuxièmes déclarations d'Égual, déclaration de panacée publique. Merci aux enfants des écoles publiques de Trèves, Camprieu, Lannuéjol et à leurs enseignantes. Merci à Paul-Marie Plédeau, artiste, organisateur d'événements et de séjours en montagne. À Baptiste Algouette, responsable du pôle forêt et chasse au Parc national des Cévennes. À Valère Marceaudon, ingénieur forestier à l'ONF et photographe naturaliste. À Caroline Scotti-Saint-Agne, ingénieure de recherche à l'INRAE. Ces déclarations d'Égual, glanées d'octobre 2023 à juin 2025, sont une commande de la filature du MASEL, pôle d'innovation territoriale, soutenue par la DRAC Occitanie, le département du Gard, la communauté de communes Cosse-Égual-Cévennes Terre Solidaire et la fondation Carasso. En partenariat avec le studio Raw Power Records et Radio Larzac. Une création de Clémentine Magéra, conteuse et autrice illustratrice, avec le concours aérien des oiseaux de l'Égual. Pic noir, chouette de Tegmalm, chouette chevêche, mésange noir, citelle, troglodyte mignon, grimpereau des bois, pinson des arbres, roitelet huppé, rouge-gorge, qui illumine ce bosquet de podcasts.